L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
Il est 5h pile, bienvenue au FM 93, bienvenue dans cette amorce, lundi 25 novembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Côté météo, ben, c'était au rendez-vous, on a le droit du soleil, des températures franchement douces, donc ça valait la peine d'aller faire un petit tour à l'extérieur en fin de semaine. C'était du beau temps qui annonce bien pour la semaine également, parce qu'on va garder des températures qui sont au-dessus des normales de saison et pas mal au-dessus de 0 degré aussi. Donc on devrait pas trop geler cette semaine, ça c'est une très bonne nouvelle compte tenu de ce qu'on a connu. Il y a de ça à peu près une semaine, quand on a eu des tempêtes puis des températures autour de moins 15 puis moins 12, tout ça en plein mois de novembre. Ben là, c'est quelque chose un peu plus confortable qui nous attend. D'abord, aujourd'hui, maximum de 1 degré, généralement nuageux, avec quelques percées de soleil. Donc, c'est plutôt bien pour aujourd'hui. Demain, mardi, maximum de 3 degrés, un peu plus chaud, mais par contre, on annonce de la pluie intermittente ou de la bruine. On tombe à mercredi avec 3 degrés, pluie intermittente également. Donc, vous voyez que les températures sont assez élevées. Jeudi, le 28 novembre, c'est 4 degrés qui sont attendus avec averse de neige. Donc, pour la dernière semaine de novembre, vous voyez qu'on va avec des températures un peu au-dessus de zéro. C'est par la suite que ça devrait refroidir. Et aujourd'hui, lundi 25 novembre 2019, à un mois de Noël, il fait présentement moins 1 avec faible neige. Ça se peut que vous ayez quelques flocons et vous deviez déneiger rapidement votre voiture en vous levant, mais il n'y a pas eu vraiment d'accumulation cette nuit. Ça s'est plutôt bien déroulé encore côté météo. Dans l'actualité, plusieurs choses. D'abord, un petit mot parce que hier soir, il y a eu un incendie quand même assez important du côté de Beauport. C'est un immeuble à logement qui a été touché par les flammes. Vers 21h45, les pompiers de Québec sont intervenus. C'est le 24 rue Sainte-Cécile. Immeuble résidentiel de 6 étages. Il y avait pas mal de complications techniques, ce qui fait en sorte qu'il a fallu ouvrir des trous, notamment dans l'entretoit. On a évacué les gens. Il y avait 8 occupants à l'intérieur. Pas de blessés. Par contre, ce sont malheureusement des gens qui ont été jetés à la rue, qui n'ont pas pu réintégrer leur logement compte tenu de l'ampleur des dommages. On a réussi à maîtriser l'incendie aux alentours de 00h15. Sauf que, comme je vous le disais, ben, c'est plusieurs sinistrés, malheureusement, qui se retrouvent à la rue. Et 60 pompiers au total qui sont intervenus sur les lieux. En fin de semaine, il y a eu pas mal de grenouillages en politique, particulièrement du côté du Parti libéral qui était en congrès en fin de semaine. Et ça sent la course à la chefferie, bien entendu. Vous savez que présentement, sur les rangs, il y avait déjà depuis un certain temps Dominique Anglade qui était là pour accéder à la chefferie du Parti libéral du Québec. Et il y a un nouveau concurrent qui s'est officiellement amené dans la course. Il s'appelle Alexandre Cusson et c'est l'ancien président de l'Union des municipalités du Québec. Donc, il y a déjà une course qui se dessine entre les deux. Sauf que, je vous le dis tout de suite, en fin de semaine, là, il n'y a pas eu de grand débat d'idées. C'est pas vraiment été le moment là de vraiment asseoir son choix sur quelqu'un pour les militants. C'était davantage aller prendre le pouls des gens. Donc, les deux aspirants en chef qui ne sont pas entrés dans un grand débat ont pas vraiment présenté de programme précis. C'était vraiment du serrage de main et ainsi de suite. Là, vous savez un peu comment c'est dans ce type de congrès politique. D'ailleurs, ça fait dire à Dominique Anglade, qui a un peu interpellé son vis-à-vis Alexandre Cusson, dire ben ce serait intéressant éventuellement là, qu'on s'assoie ensemble et qu'on débatte d'idées, ce à quoi il aurait pas dû. Ben, c'était pas le moment en fin de semaine.
Moi, j'attends ces idées en tout cas, parce que si on veut faire un débat d'idées, encore faut-il qu'il y en ait à débattre. Alors, on les attend avec impatience.
Ben, écoutez, c'est la première journée. La campagne a été lancée hier. Vous êtes impatients. Je vous l'ai dit, l'objectif du week-end, c'était de rencontrer les militants, de jaser avec les militants.
Il y a quand même l'environnement qui s'est un petit peu invité dans le débat. Ben d'abord, Dominique Anglade qui a dit que c'était une question tellement importante qu'on pouvait plus seulement en faire l'apanage du ministre de l'Environnement. Donc oui, c'est sûr, c'est un portefeuille qui va toujours avoir un titulaire, il va toujours y avoir un ministre de l'Environnement. Mais pour Dominique Anglade, c'est le chef, c'est le premier ministre qui doit porter maintenant à bout de bras ce dossier-là. Et par la suite, ben Alexandre Cusson a été un peu questionné là-dessus. Et lui a lancé une pointe à Dominique Anglade parce que en fin de semaine, Dominique Anglade avait un paquet de t-shirts, de macarons, d'accessoires de campagne. Alors, en lien avec l'environnement, ben, évidemment, Alexandre Cusson en a parlé un peu.
L'environnement est toujours considéré comme étant l'apanage d'un ministre de l'Environnement. Ça ne peut plus être ça. Il faut que ce soit porté d'abord et avant tout par le premier ministre, parce que si on veut vraiment en faire un pilier de développement économique, ça ne peut pas être porté par une seule personne.
Ça fera partie, au moment du lancement de la campagne, de ce qu'on fera. Mais vous remarquerez qu'on n'avait pas beaucoup de bebelles après nous ce week-end. C'est une façon pour nous de limiter notre consommation.
Outre ce congrès du Parti libéral et cette course à la chefferie qui se dessine pour les prochains mois, ça va être long en passant, là. Ils vont avoir à peu près 6 mois pour présenter leurs idées puis tenter de séduire les membres du Parti libéral et de leur accorder leur confiance pour devenir chef du parti. Ben, il y a également une élection partielle qui s'en vient du côté de Jean Talon. C'est à Québec, donc c'est à côté ici. Et ça s'en vient vite, c'est lundi, sauf que c'est déjà le vote par anticipation. C'était hier et c'est aujourd'hui également. Donc, les électeurs de Jean Talon qui peuvent déjà se présenter aux urnes pour faire leur choix de prochain député. Vous savez que c'est un fief libéral depuis des années et des années. Depuis 1966, ça a toujours été rouge, le comté de Jean Talon. Alors là, c'est évidemment un enjeu qui est important pour le Parti libéral. C'est Gertrude Bourdon qui se présente là. Et on sait que ça a été serré dans les deux dernières élections. Les écarts étaient moins importants entre le gagnant libéral et les autres candidats. Alors hier, on a questionné plusieurs députés libéraux à propos de leur chance de l'emporter dans Jean Talon. On écoute le chef intérimaire Pierre Arcan, la députée Christine Saint-Pierre ainsi que le député André Fortin.
Le comté de Jean Talon, c'est un comté qui pour nous est très important, comme vous le savez, et on va faire le maximum.
Il faut aussi dire à la population que Mme Bourdon a fait un bon cheminement depuis la dernière campagne électorale.
C'était serré la dernière fois dans Jean Talon, j'imagine que ça va être serré encore.
On passe à un dessin important qui est survenu hier. C'est un homme qui a pris beaucoup de place dans notamment l'économie du Québec et l'élaboration du mouvement coopératif au Québec. Je parle de Claude Bellan, qui est décédé à l'âge de 87 ans. On a appris son décès hier. Il semble qu'il soit décédé d'une insuffisance cardiaque, selon ses proches. Claude Bellan, ben, c'est l'ancien président du mouvement Desjardins. Il l'a été pendant 13 ans, entre 1987 et 2000. Et toutes les avancées technologiques qu'on connaît un peu chez Desjardins depuis les dernières années, bon, on lui doit un peu, entre autres, accéder, tout ce qui est automatisation des services, des guichets, tout ça. C'est sous la présidence de Claude Bellan qu'on a eu ça un peu chez Desjardins. Alors, M. Bellan, évidemment, a reçu un concert d'éloge parce que c'est un monsieur qui a pris beaucoup de place dans ce mouvement-là. C'est un avocat de formation et lui, il a toujours baigné là-dedans en quelque sorte parce que son père, lui-même, du côté de Montréal, avait une caisse populaire. Alors, lui, rapidement, s'est mis à travailler de ce côté-là. Il a également œuvré pour la Fédération des caisses d'économie du Québec. Donc, quelqu'un qui a baigné toute sa vie dans l'économie coopérative au Québec. Quelqu'un qu'on voit comme un des chefs de file de ce type d'économie-là aussi. Évidemment, il y a eu concert d'éloge suite à son décès. Je vous en fais entendre quelques-uns. Je vais vous en lire également quelques autres par la suite. Mais d'abord, le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui lui, évidemment, bon, rend hommage à Claude Bellan. Mais il faut dire que Claude Bellan, c'était également un apôtre important du souverainisme au Québec, de la souveraineté. Alors, Pascal Bérubé avait ses mots à décerner, à dire à Claude Bellan.
Pour moi, de voir une figure du monde des affaires aussi importante qui tirait la conclusion que le Québec pouvait et devait devenir indépendant, ça m'a beaucoup impressionné parce que c'était une addition importante au mouvement quant à sa crédibilité.
Un autre qui s'est exprimé par rapport au décès de M. Bellan, c'est Léopold Beaulieu, qui a été un ami, un collègue de M. Bellan pendant une bonne partie de sa vie. Alors, Léopold Beaulieu, c'est le président et fondateur de Fondaction, qui est le Fonds des travailleurs de la CSN. Et voici ce qu'il avait à dire.
C'est quelqu'un qui avait à cœur le développement d'une économie plurielle. C'est-à-dire, oui, il y a de la place pour l'État, oui, il y a de la place pour le capital action, mais il fallait faire en sorte que les coopératives aient une place plus importante dans l'économie du Québec.
Il y a plusieurs autres personnalités publiques qui se sont prononcées quant au décès de Claude Bellan. Il y a d'abord Justin Trudeau, premier ministre du Canada, sur Twitter, qui a dit « Claude Bellan était un grand homme et un grand bâtisseur du Québec ». Vous avez le premier ministre du Québec, François Legault, qui a affirmé qu'il apprenait avec tristesse son décès. Il a dit « Il fut très impliqué socialement pour faire avancer le Québec ». Pierre-Carl Péladeau aussi, qui s'est exprimé. « Le Québec perd aujourd'hui un homme engagé, un bâtisseur de notre économie moderne, ardent défenseur des valeurs coopératives. Claude Bellan aura présidé au renouveau du mouvement Desjardins ». Alors voilà, Claude Bellan qui s'est éteint à l'âge de 87 ans. On va parler maintenant de drogue parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, à la une du Journal de Québec, on parlait de nouveaux cas d'intoxication, notamment au GHB sur les terrains de l'Université Laval et dans des événements organisés par les différentes associations étudiantes. Bon, on a un petit peu plus de détails ce matin. C'est la une. On fait un suivi un peu de la une avec d'abord le témoignage de jeunes femmes qui auraient été intoxiquées au GHB dans le contexte de party de l'Université Laval. Alors, c'est trois étudiantes qui ont raconté comment ça s'est passé. D'abord, une jeune femme qui s'appelle Agathe, une jeune étudiante étrangère, qui raconte que le 9 novembre dernier, elle était au restaurant avec des étudiants et puis qu'elle avait amené 4 verres à sa table pour elle et ses amis. Et dès qu'elle a bu le sien, ben ça a été un blackout total. Par la suite, on dit que ses amis l'ont retrouvée chez elle, complètement écroulée sur le sol, complètement perdue. Et ce qu'on indique là, à l'urgence, c'est que non seulement il y avait le GHB là-dedans, mais il faut calculer aussi qu'elle avait consommé une quantité importante d'alcool. Alors, ça fait en sorte que vous aviez un paquet d'effets sur son organisme, notamment son cœur qui s'emballait, qui battait la chamade. Ça aurait pu être très dangereux. Elle aurait pu également vivre des conséquences plus graves que ça. Il y a une de ses amies également qui s'appelle Manon, qui elle aussi aurait vécu la même chose. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre d'événement-là. Vous avez une autre étudiante qui a parlé aussi au Journal de Québec, qui s'appelle Catherine. Elle a dit que c'est arrivé lors d'un party interfacultaire au pavillon des Jardins et qu'après quelques consommations, il y a un jeune homme qui aurait proposé une bière, puis dedans, après avoir bu 2-3 gorgées, elle serait carrément tombée blackout, puis elle n'aurait pas été capable de s'en remettre. Là. Elle aurait perdu connaissance en quelque sorte. Donc malheureusement, ce sont des cas qui semblent relativement fréquents. Et on a des chiffres aussi dans le journal pour accompagner ces témoignages. Il y aurait une hausse des cas d'intoxication au GHB. En tout cas, c'est ce qui est rapporté dans les statistiques du CHU de Québec. Parce que du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, donc sur une période d'un an, 12 mois complets, c'est 182 cas d'intoxication qu'on a recensés. Or, les statistiques les plus récentes, les 7 derniers mois, si on regarde du 1er avril à début novembre, au 9 novembre dernier, donc une période de 7 mois, ce serait 152 cas d'intoxication déjà. Donc, il me restera encore 5 mois pour combler l'écart. Vous comprenez qu'il risque d'y en avoir plus dans la dernière année, finalement, que l'année précédente, de ces cas d'intoxication au GHB. Alors, qui semble plus fréquent. Et c'est pas toujours des gens qui en ont de façon involontaire. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez des cas où est-ce que de jeunes femmes, par exemple, se font verser du GHB par des individus qui ont des mauvaises intentions dans un party. Mais il arrive également, et ça, on le souligne au CHU de Québec, que ce soit des gens qui en consomment volontairement du GHB. Parce que c'est une drogue qui permet d'obtenir un effet similaire à l'alcool. Si vous prenez une certaine quantité, vous pouvez vous sentir en état d'ébriété. Mais il n'y aurait pas les effets secondaires de l'alcool. Par exemple, le fameux hangover, là, la gueule de bois le lendemain, il n'y en aurait pas. Les effets caloriques aussi de la consommation d'alcool ne seraient pas là. Alors, il y a certaines personnes qui essaient d'utiliser du GHB afin de changer de consommation, de ne pas prendre d'alcool en quelque sorte. Et ces gens-là, parfois, calculent mal la dose qu'ils prennent et se retrouvent aux urgences aussi. Alors, bien entendu, c'est pas une pratique qu'on recommande. Ça peut amener des conséquences extrêmement graves, voire la mort, là, l'intoxication au GHB. Et il semble que malheureusement à Québec, il y a une hausse du nombre de cas qui sont signalés. 5h13, on prend une courte pause. Au retour, on jase de sport.
Où est-ce que vous allez trouver des rabais de 50% pour le vendredi fou?
Sur maboutiqueradio.ca.
Ce vendredi, visitez maboutiqueradio.ca et découvrez plusieurs nouvelles offres, toujours à 50% de rabais. Par exemple, 50% de rabais au Portofino, chez Planet X, Niki Sushi, au Toscanos, au Shaker et au Coureur Nordique.
Le vendredi fou, c'est le moment d'économiser pour les cadeaux des fêtes avec les nouvelles offres à 50% sur maboutiqueradio.ca.
Maboutiqueradio.ca.
Toi, aller conduire les enfants à l'aréna à 6h30 du matin quand il vient de tomber 2 pieds de neige. Tu veux ça? C'est sûr! Avec ton nouveau RAV4 2020 de chez Boulevard Toyota, généreusement équipé, dont les sièges chauffants de série, tous les prétextes sont bons pour prendre la route. À partir de seulement 30 404 ou 89 par semaine en location 64 mois, cet hiver, tu veux ça? Boulevard Toyota, tu veux ça? RAV4 LEFWD, location sans acompte, 277 versements, 100 000 km alloués et 17 km excédentaire, taxe en su.
Profitez du vendredi fou, profitez-en plus tôt. Durant notre solde du vendredi orange, nous avons tellement d'aubaines du vendredi orange qu'il fallait qu'on prenne de l'avance. Économisez jusqu'à 35% sur des vacances hivernales, tout compris. Découvrez comment mieux voyager avec notre garantie du meilleur prix. Réservez dès aujourd'hui auprès de votre agent de voyage ou sur...
Les jours Oval Bleu Ford, ça veut dire de grosses offres. Mais des offres, c'est pas si alléchant que ça, si c'est des offres sur quelque chose que vous ne voulez pas. Mais quand c'est une offre sur quelque chose de très gros, gros comme le camion le plus populaire au pays, le Ford F-150, et t'en profites.
Pour un temps limité, obtenez plus de 12 000 $ en valeur totale sur les modèles F-150-2019 sélectionnés. Les jours Oval Bleu Ford se terminent le 27 novembre. Visitez votre détaillant Ford ou Ford.ca pour les détails.
Il se produit un accident du travail toutes les 6 minutes.
10h20. Zoé va s'ébouillanter. 10h26. Andrés va se faire frapper par un chariot élévateur. 10h32. Johan va se coincer la main dans une machine. 10h38.
Dave, attention au fil électrique!
Il ne se passera rien.
Quand on parle de sécurité, on élimine les dangers au travail. Un message de la CNESST.
L'amorce avec Jean-Simon Buy. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
Il est 5h presque 16. Bienvenue dans l'amorce. On est lundi 25 novembre 2019, à un mois de Noël. Merci d'être là. Quelques mots à la météo. D'abord, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures, les prochains jours? Aujourd'hui, lundi, belle journée. Un peu dans la veine de ce qu'on a eu en fin de semaine. Maximum d'un degré. Généralement nuageux avec des percées de soleil. Demain, mardi, c'est de la pluie. Maximum de 3 degrés. Pluie intermittente toute la journée. Toujours noter que peu importe les moments où est-ce qu'on annonce des précipitations, compte tenu de la température actuelle, il y a toujours des risques de brune ou de pluie verglaçante. Donc, il faut un peu redoubler de prudence sur les routes. Mercredi, maximum de 3 degrés, pluie intermittente également. Et jeudi, là, on devrait avoir quelques flocons, des averses de neige maximum de 4. Présentement, à Québec, c'est moins 1 avec, justement, là, ça se peut que vous ayez un peu de flocons ce matin, mais il n'y a pas eu d'accumulation cette nuit particulièrement. Et la température est à moins 1. Dan est de retour. Bon matin, Dan. Comment
Salut, Jean-Simon. Ça va bien, toi?
Yes, ça va bien. De quoi tu me parles ce matin?
Honnêtement, je pourrais te parler de sport à cette heure-ci pendant une heure en ligne, tellement il y a eu de l'action dans le monde du sport en fin de semaine. C'était la Coupe... Tu sais, il y a des... Tu vas me dire, mais là, chaque fin de semaine, c'est comme ça. Oui et non. Il y a beaucoup d'action la fin de semaine, mais pas autant qu'en fin de semaine. Parce que on avait un gala de boxe au Centre Vidéotron. Oui. Marie-Ève Dicard qui l'a emporté encore une fois. Il y avait la Coupe Vanille ici à Québec. Les Carabins ont perdu. Hier, c'était la Coupe Grey. C'est Winnipeg qui l'a emporté pour la première fois en 29 ans. La NFL, il y a eu des gros matchs. On va s'en reparler plus tard. Le Canadien a perdu. Elle a laissé aller une avance de 4-0 samedi au Centre Bell contre les Rangers. Ça a fait mal parce que le Canadien n'a pas fait un seul point dans ce match-là. À la limite, si tu l'échappes, mais tu perds en prolongation ou en tir de barrage, mais tu mets quand même un point au tableau. Mais le Canadien a perdu 6-5 en temps régulier. Et la belle histoire du week-end, c'est celle du Canada à la Coupe Davis. Pour la première fois de son histoire, le Canada a joué en finale de la Coupe Davis. La Coupe Davis, c'est une compétition de tennis par pays. Et le Canada, dans les dernières années, il y avait un, deux, trois bons joueurs, mais réussissait jamais à se rendre jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait en fin de semaine. Ça a été la surprise du week-end. Ils ont perdu hier en grande finale contre l'Espagne et Rafael Nadal, ce qui est un peu normal. Mais l'exploit était déjà réussi pour le Canada d'être en finale de la Coupe Davis. Tellement qu'il a fallu que les réseaux de télé se retournent de bord. C'était tellement pas prévu que le Canada fasse bien que les réseaux de télé se sont dit « Ouais, mais là, on n'avait pas prévu présenter ça. Tout le monde veut regarder ça. On fait quoi? » Donc là, il y a eu des réaménagements de la grille horaire, ouais. C'est ça. Puis finalement, on a présenté certains réseaux sur le web, d'autres en direct, mais on s'est retourné de bord, disons, au niveau de la télé. Mais la bonne nouvelle pour le Canada, parce que tu le sais, tu n'entends parler que le Canada va beaucoup mieux en tennis, pas simplement chez les hommes, avec Bianca Andreescu également chez les femmes, mais en compétition d'équipe comme ça, c'était jamais arrivé que le Canada se rende en grande finale.
Merci Dan.
À tantôt.
À tout de suite. Dans le Journal de Québec, ce matin, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais à un niveau qui est autrement plus préoccupant. C'est une pénurie de médecins. On dit qu'il manquerait 1400 médecins au Québec, à peu près. Ça, c'est des chiffres qui concernent autant les omnipraticiens que les spécialistes. Donc, c'est vraiment partout à travers le Québec. On va faire le tour un peu ensemble parce que, évidemment, dans le milieu de la santé, ça peut être des éléments qui font en sorte que les gens attendent davantage, surtout en ce qui a trait aux spécialités ou encore quand les gens sont sur une liste d'attente pour obtenir un médecin de famille. C'est quelque chose qui est drôlement inquiétant. Alors, pour vous donner une idée, d'abord, il y aurait à peu près 625 postes vacants chez les médecins spécialistes au Québec. Ça, c'est des données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça veut dire que y a aucun spécialiste qui est en place dans une région qui en demande un, par exemple. Donc, si on a besoin d'un urologue au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qui est pas là, ben on met un X, puis ça signifie qu'il en manque. Rajoutez à ça 792 médecins de famille qui sont manquants présentement, et vous allez avoir un sérieux problème en termes de services de santé un peu partout. Bon, évidemment, vous comprenez que du côté des fédérations des médecins, on est un peu en mode au cri, là, puis on dit, ben là, il faut en former davantage, on n'est pas capable de les garder, c'est peut-être en raison des conditions, et notamment en région. Écoutez ça un peu, les témoignages qu'on a concernant la pénurie en région, parce que, ben justement, vu qu'il en manque un peu partout, ben ça fait en sorte que les spécialistes qui sont déjà en place dans les différentes régions du Québec se retrouvent un peu débordés. Alors, même s'ils ont une compensation de revenus importante, 45%, parce qu'ils travaillent en région, puis déjà on s'entend que les salaires des médecins, les rémunérations des médecins sont quand même relativement élevées. Merci. Alors, vous avez quand même une majoration de 45%, mais les médecins vont dire à leur fédération, notamment, on a ici le témoignage de Jean-François Courval. Lui, c'est un médecin anesthésiste qui est en fait à la tête de l'Association des anesthésistes du Québec. Alors, je le cite là dans le Journal de Québec, il dit « Mes médecins me disent, si je suis pour faire du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, la prime, tu peux te la mettre où je la pense. » Alors ça, c'est leur vision des choses un petit peu par rapport à ça. Puis ils disent qu'ils sont complètement écœurés de se retrouver les bras trop pleins. Et présentement, pour vous donner une idée, chez les anesthésiologistes, il y aurait 35 postes de vacants. Ça vous donne une idée de spécialité qui est pas comblée. Puis c'est une spécialité qui est importante. On dit spécialité de base parce que ça prend un anesthésiste pour démarrer à peu près toutes les chirurgies. Si vous n'avez pas d'anesthésiste, ben là, il va y avoir un problème assez sérieux par rapport à ça également. Il y a des je vais vous donner quelques exemples où c'est particulièrement criant le nombre de médecins manquants. Vous voyez qu'en Mauricie, par exemple, des omnipraticiens, il en manquerait 63 présentement. Des spécialistes, il en manquerait 33. Puis des cas particuliers. En Mauricie, vous savez comment c'est difficile de voir certains... Pas juste en Mauricie, mais partout au Québec, excusez-le. Vous savez comment c'est difficile de voir certains spécialistes, comment ça peut être long. Je peux vous en parler particulièrement, cette spécialité-là, l'allergologie. Là, avant que je joigne un allergologue, ça a pris 3 ans et demi. Là. Ben, en Mauricie, il n'y en a pas d'allergologue. Puis il y aurait 2 postes à combler, en théorie. Alors, vous allez attendre drôlement longtemps. Là. Vous avez besoin de voir un allergologue en Mauricie. Il n'y en a pas. Dans d'autres régions, regardez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas de physiatre. Il manquerait 10 psychiatres sur 26. Donc, vous avez un peu plus que 50% seulement des postes en psychiatrie qui sont comblés. Il manque des gens en gériatrie, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, où est-ce qu'il y a 3 postes vacants. Dans les Laurentides, il n'y en a pas de gériatre. Il n'y a pas de rhumatologue non plus. Fait que vous vous imaginez, dans certaines régions éloignées, comment des gens qui ont des problèmes de santé, qui sont déjà en attente de soins, se retrouvent sur une liste d'attente puis se font dire, ben il y a personne qui peut s'occuper de vous. Puis là, en plus, vous allez devoir vous déplacer à Upiaia, ailleurs au Québec, pour obtenir des soins. Vous pouvez vous imaginer un peu le poids psychologique que ça peut rajouter concernant des gens qui sont déjà éprouvés par la maladie. C'est quelque chose qui est drôlement dérangeant. Bon, maintenant, comment on peut régler ça? Est-ce que c'est via de la formation de plus de médecins? Est-ce qu'il faut en faire sortir plus des universités? Je pense pas que ce soit une question de salaire à hausser. Là, on vient d'avoir une entente de principe avec les médecins spécialistes, puis il y a une baisse un peu. Bon, y a-t-il des moyens concrets qu'on peut faire pour s'assurer d'attirer les médecins en région? Je pense que ça va être un dossier important à suivre dans les prochains mois. Dossier toujours dans la pénurie de main d'œuvre, ça c'est particulier. Vous connaissez Amazon, qui vous livre peut-être bien des colis. Parfois, moi personnellement, des fois c'est plusieurs fois par semaine, parce que je me fais livrer même des affaires domestiques chez nous, là. Notamment les Scott Towers, ces affaires-là, ça se fait très bien. Vous pouvez vous abonner à chaque mois puis recevoir tout ce qui est matériel domestique, produits nettoyants, papier de toilette, papier essuie-tout, tout ça. Donc, ça se fait. Donc, on finit par s'habituer un peu à recevoir ça. Mais là, il semble qu'il y ait une pénurie de recrutement de livreurs d'Amazon au point où est-ce qu'on s'en va sur Kijiji pour aller en chercher. C'est des livreurs qu'on va demander. Il y a des petites annonces présentement. On dit des chauffeurs sérieux, motivés, possédant une grande voiture ou une van pour effectuer des livraisons de colis Amazon. Ça vous donne une idée à quel point la pénurie, ça touche vraiment toutes les sphères d'activité. Puis, on dit que c'est des gens qu'on va chercher comme travailleurs autonomes et que sans des livreurs qui seraient recrutés sur les sites de petites annonces, bon, on serait pas en mesure de fournir tellement on a de la difficulté à trouver des gens qui veulent faire ce travail-là. Et apparemment que c'est pas évident d'en trouver parce que c'est pas des emplois très agréables. Il y a des livreurs qui disent qu'ils sont tellement pressés de livrer les choses, puis il y a tellement des échéanciers serrés et du territoire à couvrir qu'ils ont même pas le temps de prendre une pause pipi. Ça vous donne une idée comment c'est pas nécessairement tentant pour tout le monde de travailler pour Amazon. Et c'est pour ça qu'on en recherche présentement sur Kijiji via des petites annonces. Il est 5h25. Merci d'avoir été avec moi dans l'amorce ce matin. On se reparle dès demain 5h, et dans quelques minutes, c'est Bouchard en parle qui s'amène. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.